Nous allons lire dans Luc, dans l'évangile de Luc, au chapitre 18. Luc 18. À partir du verset premier. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il dit: Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: Fais-moi justice de mon adversaire. Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il dit en lui-même: Bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'aie d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice, de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. Le Seigneur ajouta: Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà la question du Seigneur. Le Seigneur dit: Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement, rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimé, la foi, c'est comme la respiration pour le chrétien. Vous savez, lorsqu'on a 10 ans, ou 8 ans, ou 7 ans, parfois on rêve d'être un adulte, d'avoir sa voiture, de ne pas demander la permission pour prendre les choses dans le frigo. On rêve de cette vie où c'est nous qui aurons l'argent et qui gérerons l'argent comme on veut. Mais bien-aimé, tu as beau respirer, parce que qu'est-ce que les gens te diront? Ils te diront: Mon cher, pour que tu aies cette vie-là dont tu rêves, il faut que tu continues à vivre. Il faut que tu atteignes 25 ans, il faut que tu atteignes 30 ans. Mais pour atteindre 25 ans, 30 ans, il faut respirer chaque jour. Parce que si tu retiens ta respiration, tu vas mourir, tu n'atteindras jamais 20 ans, 25 ans, et tu n'auras jamais ce que tu veux. Pour que tu arrives à cela, il faut toujours boire de l'eau, manger. C'est comme ça que tu grandiras. Mais bien aimé, tu peux faire des efforts de respirer beaucoup, de manger beaucoup. Et quand tu as 7 ans, tu as l'impression que ça ne change pas. Tu peux manger pendant 2 mois. Tu ne vas jamais grandir brutalement pour atteindre l'âge de 25 ans, 26 ans et avoir l'argent que tu veux, faire de ta vie ce que tu veux. Il y a un processus. Mais ce processus-là demande à ce que toi, tu sois fidèle dans ta respiration. Que tu continues à respirer. Et un jour, tu auras 30 ans, 27 ans, 28 ans. Il y aura un avant 27 ans et un après. Un jour, tu auras cet âge-là dont tu rêvais et tu vivras ce que tu voulais. Ma prédication, c'est: Dieu est un Dieu qui intervient, qui agit. Ce n'est pas un Dieu silencieux, mort. Il intervient, il agit. C'est la vérité. Mais cependant, il ne se laissera jamais utiliser comme une sorte de baguette magique. Il ne se laissera jamais utiliser comme une sorte de banque. Dieu veut nous amener à un niveau d'autorité spirituelle. C'est ça qui importe pour lui. Il veut nous amener à un niveau de communion avec lui, c'est ça qui importe pour lui, parce qu'il est la source de la vie. Et c'est en s'approchant de lui, c'est en recevant l'héritage de l'autorité spirituelle que nous avons par lui, que nous pouvons réellement être bénis. Parce que si c'était le matériel ou les projets que nous avons qui étaient vraiment la source de bénédiction, les païens ne se lasseraient pas de ces choses pour se droguer, pour en chercher encore. Les païens ont l'argent, ils ont les enfants, ils ont les produits cosmétiques, produits esthétiques, ils ont tout ça, mais ils s'enlacent, ils se droguent. Donc ce n'est pas ça le bonheur. Dieu veut nous donner le vrai bonheur, c'est lui-même le vrai bonheur. Mais il peut utiliser les circonstances, les situations. Mais ce que nous devons retenir, bien-aimé, c'est qu'il est quelqu'un qui agit. C'est un Dieu tout-puissant, il est le Dieu tout-puissant, il agit, il intervient. Jésus dit à cette femme, aux disciples, il dit, mais il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Toujours prier. C'est ainsi que, subitement, promptement, ça ressemble à subitement, vous verrez l'action de Dieu. Subitement. Parfois, vous serez surpris, vous n'allez même pas vous en rendre compte, Dieu, il a déjà agi. Il est quelqu'un qui intervient, bien-aimé. Beaucoup de gens sont tristes. Beaucoup de gens marchent le dos courbé. Et beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, marchent dans une sorte d'incertitude dans la tête par rapport au verset biblique. Ils se disent, ah, si seulement si ça pouvait être vrai. Mais ils ne peuvent pas le dire de vive voix. Mais ils se disent cela dans le cœur. Ils ont l'impression qu'ils sont lointains. C'est faux. C'est comme quand Lazare était mort. La sœur de Lazare a dit, ah, si Jésus était là pendant qu'il était malade. Là, maintenant, voilà, 4 jours, c'est fini. C'est comme si tout est fini. La femme qui souffrait de perte de sang, cela faisait 12 ans qu'elle en souffrait. Elle avait essayé toutes sortes de stratégies. Ça n'avait pas marché. Peut-être même qu'elle avait prié aussi Dieu. Mais elle est restée malade. Mais un jour, le Seigneur est intervenu. C'est important, bien-aimé, de comprendre cela. Dieu est un Dieu qui intervient. Ce n'est pas toi qui vas téléguider Dieu. Ne crois pas qu'il dort. Un exemple simple, c'est ta conversion. Est-ce que c'est toi qui l'as décidé? Est-ce que c'est toi qui t'es envoyé le frère ou la sœur qui est venu te parler? Est-ce que c'est toi-même qui t'es envoyé la personne qui est venue te parler de Jésus? C'est Dieu qui est intervenu dans ta vie pour te sauver. C'est Dieu-là qui est intervenu de lui-même sans que toi tu le demandes. Parce qu'en bon païen, on ne pouvait pas demander que Dieu vienne nous sauver. Mais lui est intervenu en disposant des circonstances, en disposant des moyens, en disposant des humains, pour que nous on puisse croire. Il est intervenu de lui-même. Et il est écrit dans Apocalypse 7, « Le salut appartient à notre Dieu et à l'agneau. » Donc, c'est comme s'il avait ça dans sa poche, et il sort de sa poche, il te donne. C'est sa propre intervention. Dieu intervient de lui-même. Il entre dans ta vie de lui-même pour sauver. C'est ce qui s'est passé pour nous un jour. Et l'apôtre nous dit, mais autrefois nous étions mauvais, Dieu nous a sauvés. Mais maintenant que nous sommes sauvés, ne va-t-il pas nous aider pour toutes choses? Maintenant que nous sommes à lui, ne va-t-il pas nous secourir? Le discours de défaite, il faut arrêter avec ça. Mais chacun de nous dira, non, mais moi je crois que Dieu est fort. Mais oui, mais tu le dis de ta bouche. Est-ce que tu le crois de ton cœur? Jésus a posé une question importante. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Bien-aimé, qu'on ne se mente pas. Beaucoup de chrétiens n'ont plus la foi. C'est pourquoi le Seigneur s'est déjà posé cette question. Il sait que beaucoup vont marcher par la vue. Beaucoup vont marcher dans une logique humaine. Les choses de Dieu sont spirituelles. Elles ne sont pas humaines. Pour qu'on les juge selon une logique humaine, il faut que notre intelligence soit renouvelée, comme le dit Romains 12. Il faut que notre intelligence soit visitée par l'Esprit de Dieu pour que nous comprenions Dieu et nous soyons en paix. Nous avons besoin de cela. C'est ça ma prière. Et l'apôtre le dit aussi dans Éphésiens, l'apôtre Paul le dit dans Éphésiens chapitre 1er. Il dit, je souhaiterais que vos yeux soient illuminés pour que vous voyez la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu, que vous cessiez de trembler, que vous compreniez que la puissance qui a ressuscité Jésus, Dieu vous l'a donnée. Bien-aimé, Jésus-Christ a dit à la croix, tout est accompli. Il a préparé son intervention. Pour ce que toi tu penses être un grand obstacle, une grosse montagne, Dieu a préparé son intervention. Mais est-ce que toi tu es prêt pour cette intervention? C'est la grande question. Dieu a préparé son intervention. Tu ne savais pas qu'un jour tu serais chrétien. Dieu avait déjà préparé son intervention. Maintenant que tu es chrétien, Dieu a préparé aussi les autres interventions dont tu as besoin, dont ta famille a besoin, dont ta vie a besoin. Le problème, c'est toi. Est-ce que tu es prêt à vivre cette intervention-là? Est-ce que tu es prêt à vivre cette intervention et à rester chrétien et à rester sauvé? Est-ce que tu es prêt à vivre cette intervention et rester pur? Est-ce que tu as la foi que Dieu va intervenir? C'est ça la grande question. Si tu as la foi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas passer ton temps à louer Dieu, à glorifier Dieu. Mais puisque tu gémis tout le temps, donc tu as un problème de foi. Puisque tu as oublié tes sujets de prière. Puisque tu as... Bien-aimé, il y a une chose de croire et de bénir Dieu et d'oublier. Tu as tellement prié pour quelque chose, tu as oublié qu'un exaucement était possible. Maintenant, tu travailles par la chair parce que de toute façon, tu ne crois plus en l'exaucement. Ça, c'est un oubli. Tu as oublié que tu as prié pour ça. Dieu veut te rappeler les sujets que tu lui as emmenés. Il veut te rappeler ce soir que tu as prié pour des choses. Alors, attends son intervention. N'oublie pas qu'il va intervenir. Attends son intervention. La femme qui souffrait de perte de sang ne savait pas qu'un jour comme ça, Jésus passerait là et elle serait guérie. Bien-aimés, je suis d'accord avec vous. Nous vivons tant de situations difficiles. Tant de persécutions, tant d'échecs parfois apparents. Mais, là où je ne suis pas d'accord avec beaucoup de gens aussi, c'est que Dieu fait aussi tant d'exaucements, mais puisque nos regards sont tournés vers les choses non exaucées, nous ne constatons plus celles qui sont exaucées. Nous sommes toujours là à vouloir transformer la terre en paradis. C'est pourquoi, malgré tout ce que Dieu a déjà fait, on n'a toujours pas la foi pour tout ce qu'il n'a pas encore fait. Parce qu'on a oublié qu'il a exaucé. On n'utilise pas l'exaucement de Dieu pour préparer un autre exaucement. Un exaucement de Dieu aujourd'hui, c'est bon, oui, mais il n'avait qu'à faire ça. Bien aimé, personne ne le dit comme je parle comme ça. Mais c'est ça que nous vivons. On se dit, bon, il a fait. Mais là, ce n'est pas encore fait. Le problème 4 n'est pas encore résolu. Le problème 5 n'est pas encore résolu. Bien sûr qu'il a résolu le problème 1. Bon. Peut-être aussi c'est le temps qui a résolu ça, peut-être c'est bien-aimé. Il faut que les petits exaucements servent à garder la foi pour les grands exaucements. Servent à propulser notre foi pour des plus grands sujets, bien-aimé. Dieu va intervenir. Nous vivons des situations complexes, difficiles. Nous avons des projets qui semblent lointains. Mais Dieu va intervenir. Nous pouvons lire dans Luc, au chapitre 2. Au verset 21. Quand le huitième jour fut accompli, c'est Jésus, de Jésus dont il s'agit, il fut circoncis et fut appelé Jésus, du nom indiqué par l'ange avant sa conception. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, on l'amena à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme c'est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. » Amen. Siméon avait été divinement averti qu'il ne mourrait pas sans voir le Messie. Bien-aimé, Siméon n'avait pas oublié cette promesse. Et il attendait cette promesse. Il savait qu'il était déjà très vieux et que bientôt, et que c'était préférable pour lui-même de mourir. Mais il dit non, je préfère rester vivant parce que Dieu m'a promis quelque chose. Bien-aimé, une question. Quand Siméon a vu Jésus, et alors, qu'est-ce que ça a changé pour lui-même Siméon? Est-ce qu'il a eu beaucoup plus d'argent ou bien non? Il n'a pas rajeuni, hein. Mais il a vu la promesse de Dieu. Donc, la logique de Siméon n'est pas une logique d'égoïsme individuel. La logique de Siméon n'est pas une logique d'égoïsme individuel pour dire j'attends que Dieu me donne ma maison pour moi. À l'âge vieilli, je ne vais pas en profiter. J'attends que Dieu me donne la voiture pour moi. Siméon, son problème, c'était Dieu est Dieu, je dois voir cela. Il m'a promis, il va exaucer, afin que son nom soit glorifié. Il voulait glorifier le Seigneur à travers l'exaucement. Bien-aimé, il ne cherchait pas à voir Jésus pour que Jésus lui fasse quelque chose. Il cherchait à voir le Messie tel que promis par le Seigneur. Si nous avions cette relation dans nos prières avec Dieu, les choses vont changer. Nous attendons l'exaucement d'une manière égoïste pour satisfaire nos besoins personnels, satisfaire nos convoitises personnelles, satisfaire notre ego. Mais on n'attend pas l'exaucement pour la gloire de Dieu. Siméon attendait l'exaucement parce que Dieu avait promis. Nous, nous devons attendre l'exaucement parce que Dieu a promis. Dieu a promis où? Dans sa parole. Il a dit, tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Autrement, comme Abraham, Dieu nous verra, fera voir l'exaucement à distance, en esprit. Mais on verra quand même toujours. Mon exhortation, c'est que on doit persévérer. Dieu nous a promis des choses. Nous avons fait certaines prières. Nous devons attendre l'exaucement. Dieu intervient, bien-aimé. Siméon a vu. Et je sais que beaucoup, à la place de Siméon, auraient dit, mais est-ce que c'est vraiment lui? Un bébé, comment peut-il être le Messie? Est-ce que c'est vraiment lui? Siméon avait une vraie relation avec Dieu. Il a dit, c'est lui. C'est lui. C'est lui. J'ai vu le Messie. Mais qui pouvait croire en ce moment-là que Siméon a vu le Messie? Un bébé. Bien-aimé, toi aussi, tu as reçu des signes. Tu attends des choses et Dieu t'a donné des signes. Mais ces signes-là, tu les as mis de côté parce que tu cherches tellement à être soulagé par l'exaucement que tu cherches. Les signes ne t'aident plus. Ça ne te sert plus à rien. Tu as reçu des encouragements de Dieu pendant que tu attends l'exaucement. Mais vous savez, c'est comme les gens qui disent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand tu parles de quelque chose, on te dit, est-ce que ça se mange? Tu vas dire, oui, mais il faut faire telle chose. Oui, mais est-ce que ça se mange? Donc, la promesse de Dieu, mais est-ce que ça se mange? Est-ce que c'est concret? Les encouragements de Dieu. Mais oui, mais moi je vois la personne ne change toujours pas. Dieu encourage. Mais oui, mais moi, je n'ai pas toujours ce que je cherche. On veut du concret. Mais bien aimé, si tu as le concret, où est la foi? Si Méon a vu un bébé, il a eu foi que le Saint-Esprit avait raison. C'est vraiment le Messie d'Israël. Gloire d'Israël. Il n'a pas eu honte de prophétiser sur le bébé et de dire, celui-ci, c'est la gloire d'Israël. Celui-ci, c'est le Messie promis. Dieu finira par intervenir, bien-aimé. C'est pour son honneur. Quand il a promis quelque chose, il intervient. Dieu finira par intervenir. Parce que ton problème, c'est son problème. C'est de lui que les gens vont se moquer. La personne pour qui tu pries, ce n'est pas toi qui l'as créé. C'est Dieu qui l'a créé. Et Dieu ne veut pas le voir en enfer. L'argent que tu cherches, Dieu dit qu'il est l'or. C'est lui à qui appartiennent l'or et l'argent. Il ne voudra pas que Satan prenne sa place, Mammon prenne sa place. Il prouvera que c'est lui qui est la source. C'est son honneur. Oublie-toi un instant, pense à Dieu aujourd'hui. Le problème que tu as là, qui sera honoré lorsqu'il sera résolu? Mais c'est Dieu. La maladie dont tu seras guéri dans le nom de Jésus-Christ, qui sera honoré quand tu témoigneras? C'est Dieu. La richesse qui fera que les gens s'étonneront en se disant, mais d'où lui vient cette richesse? On l'a toujours connu pauvre. Qui sera honoré? C'est Dieu. L'enfant que tu cherches, le mariage que tu cherches, qui sera honoré? Qui est contre le concubinage? C'est Dieu. Pense aujourd'hui à Dieu. C'est Dieu qui sera honoré. Parce que ses promesses de la Bible s'accompliront chez toi. Oublie-toi un instant. Entre dans la dimension de Siméon. Il pensait à Dieu. Il dit, Dieu m'a promis de voir le Messie. Maintenant, je l'ai vu. Je peux maintenant mourir en paix. Il n'a pas cherché à profiter du Messie. Il était heureux que la promesse de Dieu s'accomplisse. Quel amour pour Dieu, bien-aimé. Il est écrit dans Deutéronome 8, « Je vous ai fait marcher 40 ans dans le désert, afin de vous apprendre que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. » Et un jour, Dieu te dira, 2 mois avant ta mort, je t'ai fait vivre 60 ans après que tu sois devenu chrétien, afin de t'apprendre une seule chose. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Bien-aimé, toute la vie que nous vivons là, c'est pour atteindre ce commandement-là. Mais nous ne voulons pas toujours comprendre. Nous voulons nous focaliser sur nous-mêmes. Nous voulons toujours chercher un intérêt personnel dans tout ce que nous faisons. Nous n'avons pas compris que toute notre vie est là pour qu'on obéisse à ce commandement-là. C'est ce commandement-là qui est le centre de notre vie. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Siméon avait compris ça. Il a déjà vu le Messie. Il n'a pas dit, bon, Seigneur, allonge-moi encore 30 ans comme ça, je vais voir comment le Messie va balayer les Romains. Non. Il a dit, je l'ai vu, ta promesse est accomplie. Ton nom est grand, ô Dieu, ton nom est grand, parce que tu as promis, tu as réalisé. Oublie-toi aujourd'hui, pense à Dieu. Sache que la souffrance que tu endures à cause des flèches de Satan, c'est Dieu qui est comme déshonoré, qui semble perdre une bataille, parce que tu es à lui. Et c'est lui qui interviendra pour son honneur. Parce qu'il n'est pas d'accord que le diable semble gagner chez toi. C'est son honneur. Ne regarde pas ta délivrance seulement. Regarde l'honneur de Dieu. Et tu auras la foi qui viendra. Parce que tu réaliseras que maintenant Dieu ne peut pas se laisser faire. Il ne peut pas se laisser faire. Il est le Tout-Puissant. Bien-aimé, c'est comme si toi, tu es en voyage. Tu es le premier ministre. Tu es en voyage. Tu apprends que ton chef de cabinet est en train de mélanger des choses. Mais qu'est-ce que les autres collaborateurs vont dire? D'accord, il fait n'importe quoi. Mais quand le premier ministre viendra, son compte sera réglé. Ce n'est même pas seulement pour vous. C'est que cet homme-là, dans la façon dont il agit, il prend comme la place du premier ministre. Tous les collaborateurs vont se dire, quoi, ben c'est pas grave. Qu'il fasse ce qu'il a à faire. Le premier ministre va prendre le vol dans 2 mois. Il va venir. Et là, il va régler tout. Tu ne penses même pas à vous. Tu penses au rôle du premier ministre qui est confisqué par cet homme-là. Ben, il sera châtié. Alors, tout ce que Satan fait, dis-toi, il n'y a pas de problème. Qu'il se la joue. Bientôt Dieu va agir. Bientôt Dieu va intervenir. On va t'apprendre, tiens, la situation s'est aggravée. D'accord, que ça s'aggrave. N'est-ce pas qu'on a, pour Jésus c'était, et pour Lazare c'était le cas? Oh, mais ça fait 4 jours! On a dit à Jésus, mais il faut qu'on aille vite. Jésus a dit, non, on reste encore là. La situation s'aggrave. Laisse la mort danser. Laisse Satan danser. Laisse le ministre de l'Agriculture danser. Quand le président viendra, son compte sera réglé. Bien-aimés, ne nous énervons pas. Ne nous fatiguons pas. Ne perdons pas la foi. À un moment, disons-nous, on les laisse. Quand on est venu arrêter Jésus, Jésus a dit, c'est votre heure. C'est votre temps, le temps des ténèbres. Je vous laisse. Faites ce que vous avez à faire. Il a dit à Judas, mon ami, fais ce que tu as à faire. C'est ton temps. Il a dit à Pilate, l'autorité que tu as de me faire crucifier, C'est mon Père qui te l'a donné. Fais ce que tu as à faire. Il n'a pas résisté. Vous savez, les enfants d'Israël étaient menacés par Nebuchadnezzar. Les faux prophètes viennent. Prions, nous allons vaincre Nebuchadnezzar. On ne cède pas. Nous les Juifs, on a que l'Éternel comme Dieu. On n'a pas cédé devant un homme païen. On refuse. Jérémie est venu dire, cédez. Dieu, c'est lui qui a envoyé Nebuchadnezzar pour vous soumettre. Ne résistez pas. Celui qui va résister va subir de grands dommages. Mais les gens disent, mais ça, il n'est pas nationaliste. C'est un fou. Jérémie a dit, cédez. Il y a des moments où bien aimé, il faut dire, bon, c'est leur temps. C'est leur temps. Tu pleures seulement, tu dis, bon, c'est leur temps. Il n'y a pas de problème. Et quand les pleurs cessent, puisque tu as confessé quelque chose de réel, la joie va venir. Tu sais, ah. C'est pourquoi Jésus a dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ils ont un temps, il faut les bénir. Si vous commettez l'erreur de les maudire, si vous commettez l'erreur de vous énerver, ça veut dire que vous avez abandonné la foi. Vous avez oublié qu'ils ont un temps très limité. Très, très limité. Bien-aimés, Dieu, c'est le Dieu qui intervient. Il intervient. C'est un Dieu d'action. L'atmosphère dans laquelle nous vivons nous donne l'impression que les ténèbres sont très puissantes. Mais il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. 38 ans, cet homme était couché près de la piscine de Bethesda. 38 ans de ténèbres. 38 ans à attendre la guérison. Mais le fils de l'homme passait par là. 12 ans, la femme souffrait de perte de sang. La lumière passait par là. Jean 8, 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans le noir, mais il aura la lumière éternelle de la vie. Il est passé par là. Il y a une femme qui avait le dos courbé, 18 ans. Jésus à distance s'est passé par là. Il dit, femme, tu es guérie. Ah, j'aime beaucoup ce verset-là. Jésus est la lumière du monde. Nous allons lire dans Ésaïe, au chapitre 8. Verset 23 jusqu'à, on va continuer au chapitre 9 jusqu'au verset 6. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Bien-aimé, les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. C'est le défi de Dieu. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Dans tes enfants ou dans je ne sais quoi. Non. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. En Normandie, dans la mission que Dieu t'a donnée, il semble y avoir des ténèbres, mais elles ne régneront pas toujours. Un jour, Dieu intervient. Un jour. Et ce jour-là est déjà fixé. C'est ça la bonne nouvelle. Ce jour-là est déjà fixé. Tu me diras, mais pourquoi c'est déjà fixé? Parce que Dieu ne se laissera jamais vaincre. Dieu ne se laissera jamais battre. C'est impossible. C'est le grand vainqueur, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Jamais il se laissera. Jamais. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Ça, on continue. Si un premier temps, a rendu négligeable le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, le temps à venir donnera de la gloire à la route de la mer au-delà du Jourdain, au territoire des nations. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends la nation nombreuse, tu lui dispenses la joie. Elle se réjouit devant toi de la joie des moissons, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Écoutez le verset 3. Car le joug qui pesait sur elle, donc la domination qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos, bien-aimé, ta situation peut te faire courber. Il y a comme quelqu'un qui te frappe au dos. Tu te lèves le matin, ça continue. Tu as l'impression que ça ne finira jamais. Le bâton qui frappait son dos, la massue de celui qui l'opprime, tu les brises comme à la journée des Madian. Car toutes chaussures qu'on porte dans la mêlée et tout manteau roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car, voilà bien aimé la solution, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté, dans d'autres versions c'est écrit, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et cette lumière, c'est Jésus. Et il confirme ça dans Jean 8, 12. Il dit, je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne marche pas dans le noir, mais il aura la lumière éternelle de la vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours, bien-aimés. Un temps est fixé pour l'intervention de Dieu. Nous devons comprendre une chose. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Dieu a fixé un temps qui n'est pas forcément notre temps. La précipitation peut nous amener à la déception et la déception nous amener à la jalousie, à la perte de la foi. La déception peut nous amener à contester Dieu. Dieu a fixé un temps. Il y a des moments, Dieu fixe un temps chronologique. C'est-à-dire, il dit dans 60 ans. Il y a d'autres moments où le temps fixé par Dieu, c'est ton temps en toi. Il t'attend à une certaine maturité parce qu'il n'y a que dans cette maturité-là que tu géreras bien la bénédiction. Il ne veut pas te perdre. Il ne veut pas que la bénédiction te perde. Troisièmement, il y a encore d'autres temps qui dépendent d'un groupe de personnes, d'un ensemble. Nous ne sommes pas seuls sur la terre. Il y a tout un ensemble. L'homme qui te persécute, Dieu aussi veut le sauver. Dieu aussi veut le sauver. Mais il va se servir de qui? De toi. Mais comment Dieu va le frapper rapidement? Puisque toi, tu veux qu'on le frappe rapidement pour que toi, tu sois soulagé. Mais il faudrait encore pour Dieu de chercher une autre personne qui va utiliser pour cet homme-là. Dieu veut t'utiliser à travers la patience qu'il te donne, à travers l'amour qu'il te donne, pour que cet homme-là reçoive son salut par toi. Les gens qui nous persécutent, Dieu nous a prédestinés à les sauver. C'est pourquoi il nous demande de prier pour eux et de les bénir. Nous devons tenir ce rôle-là. Presser d'être soulagé, c'est de l'égoïsme. Nous sommes des humains. La persécution nous fait souffrir. La souffrance n'est pas agréable. Mais ayons une vue panoramique des situations parfois. Voyons l'ensemble. Voyons l'ensemble. Bien-aimé, moi, il y a des prières que je ne fais pas. Même si j'ai envie de quelque chose, je dis, Seigneur, je ne peux même pas te demander ça. J'en ai envie, je ne te demande pas parce que je sais que ça va plus créer des problèmes. Pas forcément dans ma vie, ça va créer des problèmes dans les bien-aimés qui sont dans l'église. Je préfère souffrir, manquer la chose pour que l'œuvre de Dieu avance. Paul disait, j'ai le droit de recevoir. Il parlait aux Corinthiens. J'ai le droit de recevoir de vous le bien matériel, mais je ne préfère pas prendre. Parce que chez vous, il y a un problème de compréhension de ces choses-là. Je préfère que l'évangile ne soit pas entaché. Je veux prêcher, je préfère rester tel que je suis plutôt que prendre vos biens. Parce qu'il avait une vue panoramique. Il ne regarde pas qu'à lui. Il regarde à tout le monde. Il faut que tout le monde soit béni. Il faut que tout le monde soit sauvé. Il y a des exaucements si on les reçoit. Ça peut être une occasion de chute pour les autres. On dit, Seigneur, je veux bien telle chose, mais je veux en même temps que les autres soient bénis. Je ne veux pas que la chose contribue à la destruction des autres. Une vue panoramique de la situation. Pense à ton pays. Pense à ta région. Il y a des choses, si tu les reçois aujourd'hui, ta mission va être freinée. Pense à tout ça. Il y a des choses, si tu les reçois, bien-aimé, tu risques toi-même de chuter. Nous devons avoir cette vision-là. L'exaucement dépend parfois d'un temps vraiment chronologique fixé par Dieu. Mais il y a aussi ton temps de maturité. Est-ce que tu es suffisamment mature pour gérer la bénédiction que tu attends? Est-ce que la bénédiction que tu attends ne va pas empêcher, ne va pas détruire ta mission dans le Seigneur? Et les autres, Jésus dit dans Jean 17, je me sanctifie pour eux. Bien-aimé, la sanctification, ce n'est pas seulement ne pas pécher. Hein. La sanctification, c'est être mis à part. C'est-à-dire, tu te mets à part. Donc, tu ne fais pas comme les autres. Tu es à part, tu es consacré à Dieu. C'est ça la sanctification. La sanctification, certains croient que c'est seulement ne pas pécher. Parce que oui, effectivement, ne pas pécher, ce n'est pas faire comme les païens. Donc, tu es à part. Mais après, il y a la vraie signification, c'est vraiment être à part. Consacré à Dieu, tu es à Dieu. Donc, tu es comme sa chemise, tu es à lui. Donc, c'est toi qui dois le servir. Et cette mise à part peut nous amener à ne pas vivre certains exaucements. Qu'est-ce que Dieu a dit à Paul? Quand il a prié trois fois pour être guéri, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc, si je te maintiens dans cette faiblesse, c'est pour que moi, Dieu, je sois honoré à travers la puissance que je vais manifester. Et deuxième chose, Paul l'a dit avant ce que j'ai dit, il a dit pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Donc, Dieu savait bien que guérir Paul entraînerait sa chute. Beaucoup de bénédictions qu'on a, qu'on cherche, si on les a au moment où on les demande, ça entraînerait notre chute. Entrons dans la maturité, bien-aimés. Entrons dans la maturité. Cherchons Dieu. Tout ce qui est donné dans la Bible, c'est pour nous amener à une chose. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est ça l'objectif. La Bible, il est écrit, un peuple sans vision n'a pas de frein. La vision, ce n'est pas voir pendant la nuit ou bien pendant la journée des choses extraordinaires en fermant les yeux. Hein. La vision, c'est l'objectif. Un peuple sans objectif, un chrétien qui ne connaît pas l'objectif de Dieu, c'est un chrétien qui devient un chrétien en quelque sorte bête. Il va finalement vivre comme un païen, en train de prier pour la nourriture, prier pour les vêtements, pour la maison. Il vit comme un païen, puisque le païen cherche les mêmes choses. D'ailleurs, le Seigneur le dit dans Matthieu 6, il dit, mais ces choses-là, c'est les païens qui les cherchent. Vous cherchez le royaume des cieux et vous aurez le reste. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Vous cherchez à aimer Dieu. Cherchez la communion avec Dieu. Le reste là, même les païens le cherchent. Les païens vont aussi dans les tribunaux. Les païens ont aussi des problèmes d'impôts. Ils ont des problèmes de dettes. Donc, tout ce que nous pouvons considérer comme problème, enfantement, mariage, les païens ont tout ça. Et ils cherchent la solution. Nous, le Seigneur nous dit, aimez-moi de tout votre cœur. Occupez-vous de ça. Et bien aimé, si on est dans cette fusion-là avec Dieu, les exercements ne tarderont pas. Pas du tout. Jésus, quand il priait au moment de la résurrection de Lazare, il priait Dieu, il a dit à Dieu une chose. Il a dit que je sais que tu m'exauces toujours. Dieu ne pouvait, le Père ne pouvait rien refuser à Jésus parce que l'objectif de Jésus, c'était son Père. Ce n'était pas un succès quelconque. Ce n'était pas une satisfaction quelconque. C'était son Père. Et donc, il savait que puisqu'il est en fusion avec son Père ne peut que l'exaucer. Vous savez, quand on est dans cette fusion-là, il y a des prières même qu'on ne va pas faire parce qu'on sait que Dieu ne va pas exaucer. Parce qu'on on connaît sa pensée. On sait que bon non, ça c'est pas le moment pour telle prière. Ça, puisque c'est comme s'il est, on est avec lui tout le temps et on sait ce qu'il pense. Il y en a qui sont têtus. Parfois vous venez, pasteur, vous dites, bien-aimé, tu as prié pour ça. Maintenant remercie le Seigneur. Alors, il revient encore. Mais oui, on m'a appris ça. Mais oui, mais on a déjà dit, on remercie le Seigneur. Soyons fermes, bien-aimés. Soyons constants. Croyons. Et changeons d'attitude. Si nous croyons, quelle serait notre attitude? Quelle sera notre attitude? La louange. De eux, j'ai déjà obtenu ce que je voulais. Maintenant, je vais chanter de joie. Si nous croyons, quelle sera notre attitude? La préparation de l'exaucement. Ah tiens, j'ai un terrain là. Bon, puisque Dieu m'a déjà exaucé pour la voiture, je lui prépare un petit garage. C'est ça. Parce que tu crois. La foi va te pousser à croire, à faire des actions. Siméon s'est dit, tiens, je crois qu'il va venir aujourd'hui. Il est parti vers le temple. Parce qu'il a reçu dans son cœur, je crois qu'on m'a dit que le Messie vient aujourd'hui. J'irai dans le temple. Peut-être qu'on lui avait dit, l'enfant que tu verras porté par une femme là, avec un homme, eh bien, ça sera lui. Eh bien, quand il a vu le premier, peut-être, comme on lui avait dit, il s'est dit, ah ben c'est lui. Il n'a pas dit, mais est-ce que c'est lui? Mais est-ce que? Non, bien-aimé. Il n'y a pas de est-ce que. Quand on est en communion avec Dieu, nous savons ce qu'il veut. Trop de est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème. Soit on résiste à ce qu'on a entendu, ça ne nous plaît pas. Trop de est-ce qu'il y a un problème. C'est que on ne veut pas accepter le cheminement de Dieu. Dieu a dit, demandez, on vous donnera. Tu as demandé, merci Seigneur, tu m'as donné. Demain, il y a encore soif de demander, tu demandes, merci Seigneur. La même foi qu'il t'a donné. Et quand il n'y a plus soif de demander, même si le problème subsiste, tu ne demandes plus parce qu'il n'y a plus la soif de demander. Tu as remercié, c'est tout. Le problème s'aggrave, ce n'est pas ton problème. Tu as déjà demandé, mais toi tu ne dois prier que puisque le Saint-Esprit te met le fardeau de prier. Tu ne dois pas prier puisque le problème s'aggrave ou ça m'ennuise, non. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Ce n'est pas les problèmes. Parce que tout ce que nous voulons, c'est la gloire de Dieu. Les ténèbres bien-aimées ne régneront pas toujours. Elles ne régneront pas toujours. Un jour, il y a la fin. Un jour, Staline est mort. Staline avait fait un projet. Tuer tous les médecins juifs. Tous les médecins juifs en Union soviétique. Il les a accusés d'avoir fomenté un complot pour tuer tous les cadres du Parti communiste. En réalité, c'est faux. Il était mécontent que les Juifs soient devenus des alliés des Américains. Alors, il voulait éliminer les Juifs en URSS. Alors, il a créé un faux complot, disant que c'est les médecins juifs qui veulent tuer les cadres, les présidents, tous les cadres du Parti communiste, pour affaiblir le pays, afin que les États-Unis fassent quelque chose. Bien-aimés, le but, c'était qu'après les avoir éliminés, les médecins s'attaquaient à tous les Juifs aussi qui sont là-bas. Mais bien-aimés, il y en avait des milliers et des milliers, hein, même des millions. C'est qu'il fallait les éliminer. Des milliers et des milliers de Juifs. Alors, il a fait un faux procès. Le procès devait commencer. Bien-aimés, quand j'ai regardé ce film-là, tu vois dans les familles juives où il y a un médecin ou un professeur en médecine, c'était la tristesse. Papa est en prison. Les enfants encore avaient un peu de vie. Mais la maman, triste à la mort. Triste à la mort. La population s'apprêtait déjà à lyncher les juifs. Ils attendaient le début du procès. L'instruction a duré, hein, des mois et des mois, ils faisaient l'instruction. Parce que leur but, c'était quoi? Faire avouer un médecin juif par la torture que c'est vrai, il y avait un complot. Et ils essayaient de torturer, ils avouaient pas. Il fallait un aveu. Et pendant tout ce temps-là, il y a des mois qui passaient. Papa est en prison. Il attend de mourir. Les juifs commencent à circuler à la rue, on les regarde mal. Ça commençait à se préparer. On s'approchait du procès. Les gens attendaient le début du procès pour commencer le massacre des Juifs. C'était les ténèbres pour les Juifs. Tu regardes les films et tu sens les ténèbres. Un jour, pendant qu'ils se préparaient à manger le matin, ils attendent à la radio. Le camarade Sergeyevitch, je ne sais pas quel autre Vitch, Staline est mort, bien aimé. La lumière a jailli. Il y a une fille qui dit, c'était la première fois après des mois de voir ma maman sourire. On apprend que Staline est mort. Vous savez, dans son délire de faux complot, les mythomanes, c'est comme ça. Ils finissent par croire que leur mensonge est une vérité. Donc, dans son délire, Staline ne se faisait plus soigner. Donc, il a fini par croire que les médecins voulaient vraiment les tuer. Mais il n'y avait pas que des médecins juifs, il y avait d'autres médecins. Mais tellement il avait lui-même monté cette affaire, il a fini par croire, c'est vrai, n'importe quel médecin peut aussi le tuer. Vous savez, les ténèbres étaient à tel point, à telle enseigne que les juifs eux-mêmes n'allaient pas chez les médecins juifs. Quelqu'un qui était lui-même juif, il ne voulait plus aller chez un médecin juif. Tellement on a fait croire aux gens que le complot était vrai. En réalité, il voulait les éliminer et éliminer certains cadres du parti qu'il allait accuser d'être des complices. Bien aimé, c'était les ténèbres. 3 jours avant le procès, quelques jours avant le procès, à la radio le matin, le camarade Staline est mort. Celui qui a pris le pouvoir, la première décision qu'il prend, c'est quoi? Tous les médecins juifs sont graciés. Le lendemain, on frappe à la porte, papa est de retour. Et une fille disait, quand les soldats, quand les policiers appelaient à la maison, ils appelaient nos parents par leur nom. Mais le jour où Staline est mort, le lendemain, on signe le décret de libération des juifs. Un policier appelle à la maison. Il dit, le professeur, bien-aimé, les ténèbres ont cessé. Les ténèbres ne régneront pas toujours. En 72, la femme de Mao Zedong en Chine, elle avait dit, vous parlez du christianisme, mais en Chine, il n'y a plus de christianisme. C'est mort. on a éliminé le christianisme en Chine. 4 ans après, en 76, Mao meurt. Sa femme et les autres essaient de faire un coup d'État, mais on finit par les enlever. En 79, Deng Xiaoping, celui qui remplaçait à l'époque, il décide quoi? Il décide d'ouvrir des bâtiments pour les chrétiens. En supposant pour eux, il n'y en a pas. Ils disent, bon, pour essayer de faire une détente avec l'Occident, on va ouvrir des églises officielles, 3 ou 4 bâtiments comme ça. Bien-aimé, le premier jour, c'était rempli à craquer. Eux, ils avaient dit, ils avaient tué les chrétiens, mais les chrétiens étaient là, bien-aimé. L'hiver était passé. C'était le printemps. Pendant qu'ils considéraient que les ténèbres avaient gagné, c'était en réalité l'hiver. La plante était en train de se fabriquer les nouveaux fruits, les prochains fruits. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres, bien-aimé, ce n'est pas ton affaire simplement. C'est l'affaire de Dieu. C'est Dieu qui est en conflit contre Satan. C'est Dieu qui est en conflit contre les ténèbres. Il ne laissera pas les ténèbres régner dans ta vie. Il ne laissera pas les ténèbres régner à Rouen. Il ne laissera pas. C'est lui, c'est son conflit personnel. Il a dit, gardez silence, je combattrai pour vous. C'est son conflit. 1 Jean 3, 8 dit, le Fils de Dieu est venu détruire les œuvres du diable. Il va s'occuper des œuvres du diable pour les détruire. Qu'elles soient en toi, qu'elles soient dans ta famille. Jésus-Christ est venu détruire les œuvres du diable. Mais ta collaboration est importante. Nous revenons à Luc 18. Jésus veut 2 choses. Que tu aies la foi et que tu continues à prier encore. C'est ça qu'il veut. Que tu aies la foi. Il va intervenir. Il va intervenir. Et lorsque je dis que tu continues à prier, nous ne parlons pas de la prière magique. La prière magique, c'est que tu prends une feuille, tu récites une prière. Et c'est la formule que tu récites qui est la puissance. Ce n'est pas la prière biblique. La prière biblique, c'est un état. Tu as la vision de Dieu, tu as la logique de Dieu, et tu pries dans ce sens-là. C'est ça la prière. La prière, selon la Bible, tu en fais partie toi-même qui prie. Ce n'est pas seulement les paroles que tu dis qui constituent la prière. Toi-même, tu es un élément de la prière. Ton état est important dans la valeur de ta prière. Ton état est important. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu as la vision de Dieu? Ton état est important dans la prière. Le Seigneur veut qu'on revienne. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Cet état-là fera que aucune prière naîtra. Toutes les prières seront exaucées. La priorité à Dieu et toutes les prières seront exaucées. La confiance en Dieu, la détermination, il faut persévérer, il faut louer, glorifier Dieu. Et lorsqu'on n'en a pas la force, on retourne encore dans l'intercession. Lorsqu'on a la paix après l'exaucement, on se branche dans la louange. Difficulté, on revient dans l'intercession. Pourquoi? Parce que les cartes sont dans nos mains. Dieu ne laissera jamais les ténèbres régner. Il a le dernier mot. Job 19, 25. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Je vous ai parlé de 2 cas, mais il y en a d'autres où des gens ont trop parlé. Ils se sont moqués de Dieu. Mais Dieu a toujours eu le dernier mot. Toujours, toujours. Quand c'est le temps des ténèbres, ayons parfois l'humilité de dire, c'est leur temps. Parce qu'on a la vision de Dieu. Dieu a déjà préparé son intervention. Son jour, son heure est déjà fixé. Toi, entre dans la maturité. Toi, aie une vision panoramique des choses, en tenant compte de d'autres paramètres. Toi, aie foi en Dieu. Toi, persévère. En persévérant, tu fais honneur à Dieu. Ça veut dire que tu ne décroches pas. Ça veut dire que Dieu a dit, ce qu'il a dit est vraiment vrai. C'est ce qu'il attend de toi. Que son nom soit béni. Amen. Merci Père de mettre les choses, Seigneur, à leur place. L'heure de l'intervention est déjà fixée. Le jour de l'intervention est fixé pour chacun d'entre nous. Le jour de l'intervention est fixé, Seigneur. Aide-nous à nous relever de nos cendres, à nous relever de nos ruines. Que celui qui était découragé, Seigneur, puisse retrouver la force de l'aigle. Ô Seigneur, que le faible dise qu'il est fort, Seigneur, parce que les promesses sont là, Seigneur. Les promesses sont là. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Jésus a les derniers mots. Alléluia. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons qu'à la croix, Jésus a tout accompli. Nous n'avons plus peur des ténèbres. Même si elles ont cherché à nous submerger, la lumière de Jésus est plus forte.